Économie et politique, c'est la chronique de Philippe Jurgensen.
Le miracle démographique français. L'INSEE vient d'annoncer, à partir des résultats du recensement partiel réalisé l'an dernier, que la France a connu un nombre record de naissances. Plus de 830 000, si on inclut le département d'outre-mer, 797 000 exactement en France métropolitaine. Ce nombre de naissances est le plus élevé depuis un quart de siècle et il rejoint presque en valeur absolue les chiffres enregistrés à l'époque du fameux baby-boom. Le plus remarquable, c'est que cette natalité plus forte n'est pas due à l'augmentation du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, mais bien à une augmentation de leur fécondité. Le nombre d'enfants par femme en 2006, ce qu'on appelle l'indicateur conjoncturel de fécondité, se situe désormais à juste 2 enfants, c'est-à-dire qu'il est très près du niveau permettant le renouvellement intégral des générations. Nos voisins en sont loin. La fécondité moyenne de l'Union européenne n'est que de 1,5 enfants par femme, et cet indice tombe même à 1,3, voire moins, en Europe du Sud et de l'Est. Nous voici donc au premier rang en Europe, avec l'Irlande, pour la natalité. Situation paradoxale si l'on songe que la France a été aussi la première en Europe à entamer la transition démographique, la fécondité ayant commencé à reculer chez nous dès le milieu du XVIIIe siècle, sous Louis XV, pour arriver à une situation où, entre les deux guerres, la population française en était venue à décliner, les décès l'emportant sur les naissances annuelles. Il est remarquable de voir que le même pays, le nôtre, qui s'est orienté très tôt vers le déclin démographique, est aujourd'hui en tête des quelques pays de notre continent qui connaissent une reviviscence. On peut s'interroger sur les causes de ce revirement de situation. J'en citerai 2 qui me paraissent rendre compte largement de celui-ci, même s'il est toujours très difficile d'expliquer les phénomènes démographiques. D'une part, il est patent que la société française actuelle admet facilement les naissances hors mariage, qui restent sans doute plus difficiles à assurer dans certains pays de forte tradition catholique comme l'Italie ou l'Espagne. On sait que plus de la moitié des premières naissances se produit hors mariage dans notre pays. Cela vaut sans doute mieux pour la fécondité des Françaises, car le nombre de mariages continue, lui, à reculer. Il est à son plus bas niveau depuis 10 ans, à 275 000, et ces mariages ont lieu de plus en plus tard, autour de la trentaine. D'autre part, la France est le pays d'Europe qui consacre le plus d'efforts à l'accueil des jeunes enfants. Nous sommes le seul pays où la totalité d'une classe d'âge est scolarisée à l'école maternelle dès l'âge de 3 ans, parfois plus tôt. Les allocations familiales, les crèches, même si le nombre de celles-ci est encore bien insuffisant, contribuent aussi à améliorer la situation des jeunes mères. Contrairement à ce que certains croient, ce n'est pas en favorisant le maintien des mères au foyer que l'on encourage la natalité, mais bien en permettant aux jeunes mamans de concilier enfants et travail. L'exemple de l'Espagne, où cette conciliation reste difficile et qui connaît une chute dramatique de sa natalité, le montre bien. Ce redressement démographique aura des conséquences à terme multiples. La plus évidente, c'est que la population française sera plus nombreuse que prévu. 70 millions d'habitants au milieu de ce siècle en France métropolitaine, selon les nouvelles projections de l'INSEE, alors que les précédentes prévisions voyaient la population, à cet horizon 2050, se stabiliser autour de 64 millions d'habitants. Cette population plus nombreuse obligera les Français à se serrer un peu. La densité de population, qui n'était que de 76 habitants au kilomètre carré au milieu du XXe siècle, approchera en effet 130 habitants au kilomètre carré au milieu du XXIe. Mais au-delà de ce petit désagrément qui obligera à bien surveiller notre environnement, les conséquences favorables sont multiples. La première est que le vieillissement de notre population, déjà très marqué puisqu'au 1er janvier dernier, plus de 10 millions de Français, soit un habitant sur 6, sont âgés de 65 ans ou plus, ce vieillissement donc s'accentuera moins qu'il n'était prévu. Alors que la France était le plus vieux pays d'Europe il y a 50 ans, l'âge moyen y sera, dans 50 ans, moins élevé que chez nos voisins. En corollaire, la part des jeunes dans la population, qui a constamment diminué au cours du temps pour s'établir à un quart actuellement, un peu moins de 16 millions de Français aujourd'hui ont moins de 20 ans, cette part diminuera moins que les projections précédentes ne l'indiquaient. Selon le nouveau scénario central de l'INSEE et de l'INED, il y aurait en 2050 15 millions de moins de 20 ans, soit un peu plus de 21% de la population française, et cette proportion sera bien sûr là aussi plus forte que chez nos voisins. Une autre conséquence est que l'immigration pèse moins lourd dans la croissance démographique en France que dans la plupart des pays européens. En 2006, par exemple, les trois quarts de la croissance de notre population sont venus de l'excédent naturel des naissances sur les décès, 300 000, et moins d'un quart des 94 000 immigrés enregistrés. À l'inverse, des pays comme l'Allemagne ou l'Espagne connaîtraient une chute de leur population, leur solde naturel étant négatif, si cette baisse n'était pas compensée par l'immigration. La part de la population immigrée dans notre pays tendra donc à se stabiliser ou à se réduire, alors qu'elle augmentera nettement en Allemagne ou en Europe du Sud. La croissance démographique plus forte enregistrée en France a déjà et aura encore dans l'avenir également des conséquences économiques. Elle donnera une place plus grande que prévue à des types de dépenses comme l'éducation, les communications, les loisirs pour la jeunesse. Surtout, elle augmentera le potentiel de croissance de notre pays. Toute chose égale par ailleurs, il faut bien voir qu'un pays dont la population augmente d'un demi-point de plus par an que son voisin peut aussi croître d'un demi-point supplémentaire chaque année. Il ne faut pas attendre pour autant des miracles de ce bilan favorable. Notre meilleure natalité ne fera disparaître ni le problème du financement des retraites, ni celui du taux d'activité. En ce qui concerne les retraites, les projections du récent rapport du Conseil d'orientation des retraites confirment que, malgré l'amélioration relative de la situation de l'emploi et malgré l'embellie démographique dont nous venons de parler, le vieillissement de la population, qui se poursuit malgré tout, aura des conséquences inéluctables. On sait, en effet, qu'entre 2005 et 2020 se produira le départ massif à la retraite de la génération du baby-boom, qui sera devenu le papy-boom. Or, dans le même temps, l'espérance de vie des Français continue, et on ne peut que s'en réjouir, à progresser. Elle atteint désormais 84 ans pour les femmes et 77 ans pour les hommes, et elle s'améliore environ d'un trimestre par an, ce qui est considérable. Cela veut dire que davantage de Français profiteront beaucoup plus longtemps de leur retraite. Or, notre système général de retraite, général et généreux pourrait-on dire, de retraite par répartition, fait qu'aucune provision n'a été mise de côté pour couvrir ses charges futures, à part le fonds de réserve des retraites, créé précisément dans ce but, pour intervenir à partir de 2020, mais dont les réserves sont bien maigres face à l'ampleur du problème. Celui-ci est d'autant plus difficile que pendant longtemps, les régimes de retraite se sont montrés assez généreux avec leurs cotisants, mettant en liquidation des pensions de montants relativement élevés par rapport au salaire d'activité, du moins pour ceux qui ont fait le plein de leurs cotisations. Les projections montrent que cette situation ne peut pas se maintenir. La baisse prononcée du nombre d'actifs cotisants par rapport au nombre de retraités recevant des pensions va obliger à des révisions difficiles, allant bien au-delà de celles déjà opérées par les réformes de 1995 et 2003. Selon le Conseil d'orientation des retraites, la France devrait en effet compter au milieu de ce siècle 1,3 à 1,4 actifs seulement pour chaque retraité, alors qu'il y en a 2,2 par retraité actuellement. Il faudra donc nécessairement combiner à la fois, dans une proportion qui reste à établir, un relèvement des cotisations, une moindre croissance des prestations et un report de l'âge du départ à la retraite. En ce qui concerne le taux d'activité, d'un autre côté, nous aurons la chance d'avoir une population active dont le déclin commencera plus tard que chez nos voisins, grâce à notre meilleure démographie retrouvée. Néanmoins, la population active française devrait, après avoir encore progressé pendant quelques années, se stabiliser, puis tendre à décliner dans les prochaines décennies. Nous ne pourrons donc améliorer notre croissance qu'à la condition de travailler davantage. Davantage d'heures dans l'année, la France étant de ce point de vue, avec l'Italie, le pays où le nombre d'heures travaillées est le plus bas. Nous travaillons en moyenne 1440 heures par an, c'est-à-dire environ 7 heures par semaine de moins que les Américains, qui dépassent 1800 heures annuelles. Il faudra aussi travailler un plus grand nombre d'années au cours d'une vie, c'est-à-dire parfois commencer un peu plus tôt, mais surtout, comme nous venons de le voir, partir un peu plus tard en retraite. Et enfin, il faudra augmenter le taux d'activité global de la population, ce qui suppose notamment d'accroître le nombre de femmes au travail et de réduire beaucoup plus fortement le chômage. Voilà certes bien des défis pour nos futurs gouvernants actuellement lancés dans la bataille électorale. Le redressement démographique inattendu de la France montre pourtant que notre pays est capable de relever victorieusement les plus grands défis.